ce nouvel aréopage sur FM+, il s'agit avec notre invité d'aujourd'hui de l'histoire de Montpellier, l'histoire d'une donation entre chevaliers en 985, un ouvrage écrit par Jean-Luc Fabre. Bonjour Jean-Luc Fabre.
Bonjour.
Alors Jean-Luc Fabre, vous êtes déjà venu à FM+, et on le sait, vous écrivez des romans historiques pour certains d'entre eux ancrés dans Montpellier et sa région. Je ne me trompe pas, il n'y a pas eu d'exception jusqu'alors.
Oui, effectivement, après 5 romans de terroir écrits sur les Cévennes, j'ai entamé une période plus montpelliéraine, voilà, avec la Vénitienne et Pénitents Blancs, il y a 2 ans, et
Oui.
puis aujourd'hui avec la prophétie de Guy de Montpellier, qui est le premier ouvrage d'une saga des Guillaumes de Montpellier.
Alors, cette saga, justement, commence à l'origine de Montpellier, c'est bien cela, et nous sommes là en 985, même pas encore en l'an 1000 de notre ère.
Ah oui, là on est vraiment au tout début de Montpellier, avant que Montpellier n'existe, quand Montpellier n'était que cette colline de pierre qu'on a appelée plus tard le Clapas, qui est aujourd'hui celle qui porte la préfecture, la place de la préfecture. Et à l'époque, effectivement, cette colline de pierre avait été donnée par le comte de Moguio, qui était la puissance locale, à un de ses chevaliers, qui atteignait la quarantaine à peu près, et qui donc, à cet âge-là, ne pouvait plus, comme tous les chevaliers à cet âge-là, continuer à combattre, hein, et à qui on donnait un petit lopin de terre pour finir leur jour sur leur propriété.
Donc, vous êtes en train de dire que c'était une pratique courante finalement dans cette histoire de comté et de région. Enfin, on n'appelle pas ça région, mais de territoire.
Oui, tout à fait. On avait ce qu'on appelait les chevaliers errants, c'est-à-dire des gens qui étaient chevaliers et puis qui erraient à la recherche d'un maître. Ensuite, trouver un maître, en l'occurrence, là, ça a été le comte de Moguio, de Melgueil à l'époque. Et puis arriver à un certain âge, à la quarantaine, on estime à peu près, voilà, ils étaient plus aptes au service, donc il fallait leur donner un lopin de terre pour qu'ils puissent y finir leur jour en le faisant exploiter par quelques cèpes.
Alors, on parlait de cette année 985, le 26 décembre, car c'est la date de la signature de la charte de cette donation dont vous parlez entre le comte Bernard de Moguio et Guilhem de Montpellier. Mais on comprend assez vite que cette donation n'est pas à elle seule toute puissante. Il va falloir assez vite que Guilhem de Montpellier se rapproche de l'évêque.
Alors, c'est là. Ce qui est étonnant dans cette histoire, c'est que le Xe siècle, c'était un siècle obscur du point de vue de la transmission écrite. Et là, pourtant, on a vraiment un document qui dit exactement ce qui s'est passé. En fait, il s'agit du pot qui a été écrite, très mal écrite, dans un latin très abâtardi, qui est rempli de fautes, mais qui décrit exactement ce que le comte de Moguio et son épouse ont donné au chevalier Guillaume une colline avec des terres, des arbres fruitiers, quelques moutons et le premier habitant de Montpellier qui s'appelait Amalbert, on a son nom,
Oui.
et qui était sur cette terre. Voilà. Et donc, on donne cette terre à ce chevalier, mais il faut bien voir, c'était une colline, c'était peu de choses en fait. Et là, très vite, Guillaume de Montpellier, qui était quelqu'un de très éveillé à son temps, à l'actualité de son temps, va très vite comprendre qu'il va pas pouvoir bien vivre sur cette colline s'il ne l'ouvre pas à tous les gens qui passent à ce moment-là le long de la mer, par ce qui était la voie domitienne du temps des Romains, et qui vont l'aider à développer ce territoire qui lui a été donné.
Et donc avec l'aide de l'Église.
Oui, effectivement, parce qu'en fait, il y a 2 personnages importants à l'époque localement. C'est le comte de Melgueil, qui est le noble qui fabrique la monnaie, et puis l'évêque. Alors l'évêque qui auparavant était à Maguelone, hein, sauf que Maguelone avait été détruit par Charles Martel à l'époque, hein, en 737, pour pas que les Sarrasins puissent s'en servir de port d'attache, de base arrière. Donc il s'est réfugié à Castelnau, à l'ancien port romain de Castelnau, et entre le comte de Moguio et l'évêque, hein, ce sont les deux puissances avec lesquelles Guillaume va devoir composer pour devenir lui-même, hein, au bout de quelques dizaines d'années, la troisième puissance locale.
Alors, vous parliez de lui comme un être éveillé, ce Guillaume de Montpellier. Il m'avait semblé aussi que c'était un visionnaire finalement, parce qu'il a bien senti qu'il fallait se faire des alliés. Et on verra aussi un peu plus tard, quand il s'aperçoit qu'il n'aura pas de descendance, qu'il a aussi une vision de la perpétuité de son domaine, de ce territoire.
Finalement, c'est le principal enseignement peut-être à tirer de cette histoire étonnante qu'est la naissance de Montpellier, c'est que Guillaume a tout de suite compris que Montpellier, une ville, ne pourrait pas naître là en tirant la richesse de son sol. Il a compris que s'il y avait une richesse, elle viendrait de l'extérieur et qu'il suffisait de savoir l'accueillir, la protéger et la faire fructifier avec une ouverture d'esprit, notamment par rapport à la religion, par rapport à la religion juive à l'époque, et par rapport aux enseignements qui seront dispensés. Et finalement, ce qu'a imaginé Guillaume, c'est ce qui porte notre ville aujourd'hui, 1000 ans plus tard, une ville de recherche, de commerce.
Alors, vous l'avez dit, il y a eu donc l'Église chrétienne, catholique à l'époque. Il y a eu, on va le voir, on voit un peu plus loin l'intervention de ce fameux Ésaïe qui arrive de Barcelone pour chasser par les Sarrasins. Et puis, il y a les marchands qui vont aussi participer à ce développement. Alors, tout ça va bien fonctionner pendant un certain temps.
Effectivement, l'alchimie qui va permettre la richesse de Montpellier se met en place très tôt, dans les premières années de la ville. Pourtant, cette ville, elle n'est pas encore fortifiée avec les remparts comme il en reste quelques vestiges. Là, on est vraiment sur des palissades de bois, une tour en bois. Et pourtant, le souci de Guillaume, par rapport aux autres seigneurs de l'époque, ça ne va pas être de se fortifier derrière des remparts tout de suite, hein, pour faire la guerre à ses voisins, mais plutôt d'assurer un minimum de protection, hein, aux gens qu'il fait venir sur cette ville et qu'il y implante. Et ce qui va se passer, c'est que Barcelone étant pris par les Arabes en 985, qui est l'année de la donation, ça va créer un afflux notamment de chrétiens et de juifs qui vont venir et qui vont apporter leur richesse avec eux. Dans la mesure où les juifs sont changeurs de monnaie et que le comte de Moguio fabrique de la monnaie juste à côté, tout de suite, Montpellier va devenir une place centrale pour l'échange de monnaie en Méditerranée. Et c'est comme ça, la deuxième église de Montpellier s'appellera Notre-Dame des Tables, parce que les tables changeurs de monnaie étaient dépliées devant cette première chapelle.
Alors, l'histoire se termine lorsque le disciple de ce fameux médecin juif, Ésaïe, rencontre Guillaume de Montpellier. L'histoire se termine avec l'exigence que Montpellier soit aussi un lieu où les médecins, les juristes, tous les hommes de science puissent partager leur savoir.
Tout à fait. Très, très rapidement, la connaissance, l'enseignement et notamment la médecine, ça va heurter la religion à l'époque, puisqu'à l'époque, il n'est pas question encore de dissection, voilà. Et Guillaume va être quelqu'un qui est probablement, à l'époque, l'ancêtre de celui qui a prôné la laïcité. Parce que dans une certaine mesure, il va arbitrer à tout moment entre la connaissance, la liberté d'enseigner et la religion catholique, chrétienne, et l'évêque avec qui il doit composer. Mais toujours, il arbitrera toujours au profit de ce qui est bon pour la ville et pour ses habitants. Et en soi, en faisant cela, il va tracer un chemin, et à chaque fois que la ville sera dans ce chemin, elle connaîtra des âges d'or au travers de l'histoire. Et à chaque fois qu'elle s'en écartera, elle connaîtra des temps plus difficiles.
Alors, nous l'avons dit, hein, la prophétie de Guillaume de Montpellier aux éditions Vent d'Histoire, c'est un roman historique. Un roman historique qui commence en 985 et vous parcourez comme ça 30 ans jusqu'en 1025. Alors, qu'est-ce qui est la part du roman dans ce que vous racontez et qu'est-ce qui est la part de l'histoire? Vous avez fait quoi? 50-50? 80-20? Comment vous avez construit ça? Comment vous avez, voilà, vous vous êtes accaparé cette histoire?
En fait, l'exercice consiste à partir d'une réalité historique et de personnages historiques réels, à les remettre dans leur cadre, dans leur époque, à les faire vivre des faits historiques qui sont avérés. Même si, pour ce qui est la prophétie de Guillaume de Montpellier, comme je vous le disais, on n'a pas de traces écrites. Mais par contre, on peut collé à une réalité historique qui nous est indiquée par ce qu'on sait de ce qui se passait autour de Montpellier. Et puis ensuite, pour rendre la lecture agréable, on rajoute quelques personnages qui, eux, effectivement, sont fictifs, mais qui permettent de faire vivre ces personnages historiques de manière romanesque.
Alors, par exemple, est-ce que la femme de Guillaume de Montpellier s'appelait bien, alors je suis en train de retrouver son prénom qui est un peu compliqué, en fait, qu'on ne connaît plus aujourd'hui,
Alors,
Schimberger, et est-ce qu'en effet, ils n'ont pas pu avoir d'enfants?
tout à fait, tout à fait. Ça, c'est une réalité. C'est la généalogie, en fait. La seule source historique stable sur la durée au cours des 10-11e siècles, c'est la généalogie. Il y a des travaux extraordinaires. D'ailleurs, je remercie M. Manilev, qui est expert en généalogie et qui m'a beaucoup aidé là-dessus. Donc, on s'appuie là-dessus. Par contre, on n'a rien qui soit écrit sur la façon à quoi elle ressemblait, quel était son caractère, sa manière de vivre. On ne le sait pas. Ça, effectivement, on est obligé d'inventer. Mais par contre, on sait qu'effectivement, la vie de Guillaume de Montpellier s'est déroulée avec cette épouse-là, que malheureusement, ils n'ont pas eu d'enfant, que c'est le neveu qui a pris la succession. On respecte vraiment ce cadre historique, et puis à l'intérieur, évidemment, on fait vivre ces personnages avec une imagination qui rend la chose plus agréable.
Oui, très agréable. Et c'est vrai que vous faites de cette femme, Schimberger, une femme que je trouve aussi assez moderne, qui accepte de cette vie-là incertaine au début avec Guillaume de Montpellier. Elle ne sait pas ce que ça va donner, ce rocher-là. Elle accepte assez vite de ne pas avoir d'enfant. Enfin, vous en faites une femme avec une emprise sur son monde.
Moi, j'ai été frappé, effectivement, d'abord pour la donation, le conte de Melgueil. Quand on lit cette donation dans le détail, ce qui a interpellé beaucoup d'historiens, c'est que chaque fois, le conte de Melgueil dit « Moi et mon épouse Sénégonde, nous faisons ça, nous faisons ça. » Ce qui, pour l'époque, est totalement révolutionnaire. À l'époque, c'était les hommes qui parlaient, et pour eux. Et pour ce qui est de Guillaume, effectivement, on ne peut pas le savoir, on ne peut pas l'affirmer, mais je crois aussi que vu ce qu'étaient les chevaliers à l'époque, ce qu'était la répartition des rôles dans la société médiévale, je crois aussi qu'il y a une finesse de vision dans l'avenir de ce que pouvait être cette colline qui peut-être ne lui est pas venue, qui est plutôt liée à un échange. Enfin, j'ai trouvé voilà. Une intuition féminine.
D'accord. Alors, vous le disiez au tout début de cette émission, ce premier volume est le début d'une saga. L'histoire de Montpellier, vous la connaissiez bien avant. Comment est-ce que, ou bien vous la découvrez au fur et à mesure que vous avancez dans votre saga?
Les Guillemets, c'est un moment. Et non, c'est grâce à ça que Montpellier existe. Après, par les croisades, Montpellier va devenir une ville méditerranéenne. Tout s'est joué pendant ces 300 premières années de Montpellier. Et finalement, ben je suis sûr que bien peu de Montpelliérains ont conscience que leur ville vient de là. Et que l'esprit qui l'anime aujourd'hui vient de là. Donc, j'ai commencé à tirer le fil par ce premier volume qui est la prophétie de Guillaume de Montpellier. Et puis après, je me suis rendu compte que le neveu puis les fils de Guillaume de Montpellier, cette dynastie des Guillaume a été d'une richesse extraordinaire. Tout dit tout de ce qu'est Montpellier aujourd'hui. Et donc, voilà, je prends aujourd'hui beaucoup de plaisir à écrire à la suite, parce que plus on avance dans la dynastie des Guillem, et plus on se rapproche de nous, et plus on comprend comment tout cela n'est pas sorti par hasard.
Bien, bah, écoutez, Jean-Luc Fabre, j'espère vous revoir pour le deuxième volume. Voilà, j'espère bien que le premier aura suffisamment de succès pour que vous puissiez éditer le second, enfin le deuxième. Et puis, bonne suite dans ces temps difficiles pour la vente des livres. Bonne suite à vous, Jean-Luc Fabre.
Merci à vous, merci infiniment.